Nous prions avant de lire dans les Écritures. Sans ta parole, ô notre Dieu, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Au travers de la lecture des Écritures, donne-nous ta parole, ô notre Dieu, par ton esprit, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Je ne crois pas qu'il y ait de muguet dans les Écritures. Mais voici quand même pour le 1er mai. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Donne-nous plus de foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître ses troupeaux, lui dira, quand il rentre des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi aussi, tu pourras manger et boire. » Saura-t-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné ? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Alors quand même, ce sont des paroles un peu irritantes, voire même décourageantes. Personne n'a envie d'être un serviteur inutile. Personne, après avoir fait tout ce qui était à faire, et peut-être même plus, ne dirait « Je suis un serviteur inutile ». Ce texte est décidément bien étrange, car Jésus de Nazareth prononce plutôt des paroles d'encouragement, et pas des paroles de découragement. Y aurait-il là une leçon d'humilité ? Pour se répéter à la fin de chaque journée de travail que nous sommes des serviteurs inutiles, ça nous empêcherait peut-être de nous réjouir, d'être trop satisfaits de nous et de ce que nous avons accompli. Mais il n'est pas certain que cela fasse naître l'humilité dans nos esprits à force de répétitions de formules incantatoires. Il en sortirait plus certainement une culpabilité assez écrasante, ou cette fausse humilité qui masque un orgueil démesuré. Ou alors est-ce une manière de se convaincre que de toute manière, si je ne fais pas ce que je dois faire, un autre le fera, et donc que je ne suis pas utile puisque je suis à ce point remplaçable. Alors ce n'est pas mauvais de se dire que nous ne sommes pas irremplaçables, c'est même plutôt sain. Santé. Mais il est facile après de se dire que oui, nous sommes inutiles et donc jetables. Et nous connaissons trop les ravages de cette dérive de l'inutilité pour l'associer à la bonne nouvelle. Faut-il alors entendre que le sens du devoir, faire tout ce qu'il y a à faire par devoir, doit être tellement exacerbé chez les chrétiens qu'il étoufferait toute autre considération par rapport au travail effectué. Sommes-nous appelés à être des hommes et des femmes de devoir ? Nous connaissons bien cela dans le protestantisme. Une question de morale, finalement. Mais Jésus de Nazareth ne parle pas de morale. Il parle d'évangile. Et ce n'est pas la même chose. Et puis, soumis à un tel sens du devoir, comment faire preuve d'esprit critique? Comment prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on doit faire? Comment contester? Comment mettre en question ce qui est et ce qui se passe? Alors, que deviendraient la liberté, l'imagination et la créativité? Et surtout, nous savons bien que dire à quelqu'un « Tu es inutile, tu ne sers à rien », c'est d'une terrible violence. C'est une atteinte à sa dignité et à sa confiance en soi. Nous savons bien qu'entendre une personne dire « Je ne sers à rien, je suis inutile » signifie que cette personne doute de sa propre dignité, qu'elle doute du sens de son existence et que son envie de vivre en est affectée. Nous sommes tellement conditionnés par les injonctions à l'utilité, qui est quand même une des logiques majeures dans le monde et dans la société. Elle peut même être appliquée à la foi, surtout si l'on considère la foi comme un outil qui doit servir à quelque chose, plus que comme une relation dynamique et souvent surprenante. Jésus de Nazareth s'adresse ainsi à ses apôtres. « Quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, des serviteurs qui ne servent à rien. » C'est assez inconfortable d'être ainsi écartelé entre un tout, ce qu'il y a à faire, et un rien, de ne servir à rien. Mais il faut se souvenir que ce sont les apôtres qui ont commencé à faire des mesures. « Donne-nous plus de foi, » ont-ils demandé. « Augmente-nous la foi. » Alors cela peut partir d'un bon sentiment, la conscience d'un manque de foi et la bonne volonté de vouloir croire plus et d'être ainsi un meilleur apôtre, un apôtre plus efficace. Ce qui est tout, mais vraiment tout près de la volonté de vouloir faire des choses extraordinaires, tout près de la volonté de devenir un genre de héros de la foi, la volonté de devenir enfin vraiment digne du Christ, vraiment digne d'être un apôtre, un Christ admirable, apôtre admirable. Dieu ne mérite-t-il pas le meilleur, le plus, le mieux? Il s'agit d'être à la hauteur. Et voici la porte ouverte, grande ouverte, au culte de la performance et de la compétition, à l'orgueil et à l'aveuglement que l'une et l'autre génèrent, la porte ouverte à la tentation de la puissance personnelle en vue d'obtenir la reconnaissance de Dieu et des autres, qu'ils soient croyants ou non. Alors la première partie de la réponse de Jésus est un petit chef-d'œuvre d'humour. « Si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il le ferait. » D'un seul souffle, Jésus rappelle aux apôtres qu'ils ont très peu de foi, une minuscule foi même, plus petite qu'une graine de moutarde, et que s'ils en avaient un peu plus, ils pourraient effectivement faire des choses extraordinaires et inutiles, comme aller planter un mûrier dans la mer. Cependant, Jésus de Nazareth n'a pas appelé ni envoyé les apôtres sur le critère de la taille de leur foi. Même si ces apôtres semblent assez souvent préoccupés par cette question. Quel est le plus grand? S'asseoir à la droite ou à la gauche? Toutes ces questions-là qu'ils se posent au fil de l'Évangile. Jésus de Nazareth a même mis en valeur la foi de personnes auxquelles nul n'aurait fait le moindre crédit de foi, justement. Un centurion dont le serviteur est malade, une femme pécheresse qui oint ses pieds d'huile et les essuie de ses cheveux. Le souci de la quantité de foi marque un souci de soi dont Jésus de Nazareth ne cesse de souligner qu'il est dangereux parce qu'on s'y perd soi-même par manque d'ouverture à l'autre et à Dieu. Puis, à ses apôtres qui voudraient plus de foi pour faire de plus grandes choses, Jésus raconte cette parabole du maître et du serviteur ou de l'esclave. L'arrière-fond de cette société est que l'esclavage y était très répandu. Jésus raconte cette parabole, donc. Entre le maître et le serviteur, deux situations sont proposées. Et dans la parabole, les apôtres sont invités à se mettre à la place du maître. La première situation établit une relation, on pourrait dire, de réciprocité entre le maître et le serviteur. Après une journée de travail, l'un et l'autre s'assoient à table pour prendre leur repas. Et le maître manifeste ainsi de la reconnaissance pour le travail effectué par le serviteur. Or, ce scénario est tout de suite invalidé par Jésus au profit du second scénario, dans lequel le maître exige d'être servi à table par le serviteur qui ensuite seulement pourra à son tour manger et boire. Alors la logique de ce second scénario, c'est en effet celle qui semble normale du point de vue des relations courantes entre maître et serviteur. Le serviteur doit faire tout son travail jusqu'au bout des tâches à effectuer avant de se nourrir et de se reposer. Et le maître n'a pas à lui témoigner de reconnaissance particulière pour cela. Et c'est ce que nous voyons à quelque chose près. Dans la logique du monde, la reconnaissance du travail accompli passe par un salaire ou une rémunération qui en est la forme matérielle. Et nous savons que ce salaire ou cette rémunération, l'argent reçu, participe à son tour à la reconnaissance sociale de celui qui l'a gagné. Cependant, la conclusion de la parabole renverse la perspective. Les apôtres ne sont plus à la place du maître, mais à celle des serviteurs inutiles malgré tout le travail accompli. Ce que dit Jésus, c'est qu'il n'y a aucune reconnaissance à attendre de la part du maître, c'est-à-dire, dans cette parabole, de Dieu pour le travail accompli. Cela va complètement à l'encontre de la logique dans laquelle nous baignons. Mais heureusement qu'il en est ainsi. Car si nous devions être récompensés par Dieu pour ce que nous aurions accompli à son service, nous passerions tout notre temps et toute notre vie dans l'angoisse de ne pas en faire assez et de ne pas mériter une récompense suffisante. Non, Dieu ne récompense pas les efforts, ni le temps passé, ni les compétences, ni les qualités. Et cela même est la bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui dans le monde, et même dans le monde du travail. Il n'y a là aucune dévalorisation ni du travail, ni des travailleurs. Au contraire. Dans la parabole, du travail a été ordonné au serviteur par le maître. Et quand le maître est Dieu, cela veut dire, cela signifie qu'une vocation a été donnée aux disciples. Une vocation leur a été confiée. C'est-à-dire que la reconnaissance des serviteurs, des disciples, est donnée en plénitude avant toute autre considération, avant que les disciples ne se mettent au travail et à l'œuvre. Nous ne sommes pas des serviteurs obligés d'accomplir un travail pour obtenir un salaire et une reconnaissance. Il n'y a pas de lien entre le travail effectué et le salaire et la reconnaissance. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous ne dépendons pas de l'ordre de l'utilité, mais de l'ordre de la grâce. Ce qui ne nous empêche nullement d'accomplir des choses utiles pour nous, pour nos contemporains, pour la société, voire même pour l'Église. ce n'est pas le travail réalisé qui procure la reconnaissance de la part de Dieu. La reconnaissance vient de la grâce qui précède la vocation, qui précède la mission confiée. La logique de l'Évangile, c'est que le Maître, Dieu, confie une tâche, un travail aux apôtres qu'il a déjà reconnus, qu'il appelle et qu'il envoie. Et c'est parce que nous sommes reconnus comme des personnes capables, dignes et responsables que nous sommes envoyés mettre en œuvre notre vocation en tout temps et en tout lieu. Cette conscience-là est celle que Jésus le Christ éveille en ses disciples. Et cette conscience-là transforme l'existence. Dieu n'est pas un maître qui exige d'être obéi sans se soucier de ses serviteurs. Une telle compréhension de Dieu conduit inévitablement à un comportement et une exigence au détriment d'autrui. Cela conduit inévitablement à faire payer aux autres ce qu'on veut être et ce que l'on veut de plus, toujours plus. Une telle compréhension de Dieu conduit à une existence sans joie dans un monde sans joie. Mais le Dieu qui envoie ceux qu'il a reconnus est un Dieu qui libère des injonctions terriblement aliénantes à l'utilité et à la performance. C'est un Dieu qui libère de la loi des mesures, qui libère du souci de soi. Dieu a déjà dit oui sur chacun de nous, et c'est pour cela que nous pouvons vivre et travailler sans être esclaves d'une quête sans fin de dignité et de reconnaissance. Dieu est celui qui nous espère et nous donne de devenir des humains libres, responsables et vivants de grâce. Et la vocation qui est la nôtre, la mission qui nous est confiée, notre travail de disciple, ce n'est pas tant de faire que d'annoncer l'Évangile, quoi que nous disions ou quoi que nous fassions. Ce que nous disons, ce que nous faisons, que ce soit une manière d'annoncer l'Évangile, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, le don sans retour et sans échange, la grâce préalable, la reconnaissance déjà offerte. Ah, c'est certainement une annonce qui conteste les logiques du travail, surtout celle qui lie d'une manière ou d'une autre la reconnaissance de la personne au travail accompli, en s'alliant à la part extrêmement importante que prend la vie professionnelle dans l'existence d'une personne. Mais cette conscience éveillée par le Christ entraîne une autre manière d'accomplir notre travail et tout ce que nous faisons, les activités et occupations quotidiennes, professionnellement et aussi bénévolement, en association, en paroisse ou dans d'autres cadres. Ce que nous sommes, chacun en tant que personne, n'en est pas dépendant. Le sens et la valeur de notre vie ne tient pas au travail que nous effectuons, ni d'ailleurs à l'absence de travail. Et cette conscience-là est source d'une grande liberté intérieure et aussi de confiance en soi. Cette conscience-là est donc une source d'engagement, d'imagination, de créativité et de relation. Et voyez-vous, puisque cette année, le dimanche, c'est le 1er mai, fête du travail et des travailleurs, eh bien, cela peut nous aider à dégager un peu plus en nous la place à cette conscience. Cela peut aider à la réveiller. Le dimanche, le jour du repos, correspond au Shabbat biblique. Un jour pour ne pas travailler, un jour pour ne pas accumuler, empiler les activités, un jour pour se souvenir de manière très incarnée, c'est-à-dire même avec notre corps, que nous ne valons pas ce que nous faisons, mais que notre valeur tient dans ce que l'Éternel dit sur nous. Bien sûr, il y en a beaucoup qui travaillent le dimanche, mais le sens du jour du repos, du Shabbat, qui peut avoir une autre forme que celle du dimanche, c'est de ne pas être esclave de son travail et de son salaire. C'est de louer Dieu et c'est de se réjouir d'être ainsi aimé. Alors, bon dimanche 1er mai.